Vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL, il est 7h.
RTL Matin, Bernard Poirette.
Et donc Florence Cohen pour ce premier journal de la tranche. Bonjour Florence.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Des abribus endommagés et des vitrines saccagées. Une manifestation contre la venue aujourd'hui à Nantes de Marine Le Pen a dégénéré. 11 blessés chez les forces de l'ordre.
Une voiture fonce sur des passants à Heidelberg en Allemagne. Un mort et 2 blessés. Pour l'instant, la police ne parle pas d'attentat. La sécurité à Paris, objet d'une passe d'armes entre François Hollande et Donald Trump. Le président français dénonce la défiance de son homologue américain. La soupe à la grimace en rugby, la France s'incline face à l'Irlande dans le tournoi des Six Nations et le Classico ce soir en football, Marseille-PSG.
Encore une manifestation qui dégénère à Nantes. Cette fois, ce n'est ni contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ni contre les violences policières. C'est contre la venue aujourd'hui de Marine Le Pen en meeting.
Le défilé a rassemblé 2 à 3 000 personnes. Les heurts ont fait 11 blessés parmi les forces de l'ordre. Un gendarme a été brûlé au deuxième degré aux jambes. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Et Nicolas Bobby, après les violences, c'est toujours le même spectacle de désolation.
Nantes pense ses plaies une fois de plus. C'est le grand nettoyage des vitrines brisées par les casseurs masqués venus uniquement découdre avec les forces de l'ordre. Ce commerçant en a plus cassé.
Ils ont pété des vitrines dans toute la ville de Nantes. Et puis il y en a marre, quoi. Il y en a ras-le-bol de voir ça. Voilà, je trouve ça vraiment inadmissible. On est dans une société vraiment pourrie. Ils ont cassé ma vitrine, mais bon. Mais il y en a d'autres qui ont plus mangé que moi. Pourtant, il y avait quand même beaucoup de services de l'ordre qui étaient présents.
Magasin de sport pillé, abribus défoncé, mur tagué. Cette agence immobilière a de nouveau été attaquée.
C'est comme il y a 6 mois, quoi. C'est-à-dire qu'on se fait encore casser la vitrine de façon un peu gratuite. C'est l'aéroport, c'est Marine Le Pen, c'est toutes les manifs, quoi. Il y a un débordement maintenant sur tout et n'importe quoi. Il y a une ingérence, quoi. Voilà, après, c'est révoltant. Je sais que ça va encore me coûter de l'argent.
Les pompiers ont reçu des projectiles. Plusieurs policiers et gendarmes ont été blessés, dont un à la jambe. Par un cocktail Molotov, ses vêtements commençaient à flamber. Un manifestant a même été interpellé avec un mortier.
Marine Le Pen sera donc en meeting au Zénith de Nantes cet après-midi. L'un de ses proches vient d'être mis en examen dans l'enquête sur le financement des campagnes électorales du Front National en 2014 et 2015. Il s'agit de Frédéric Chatillon, un pilier de la communication du FN. Le rendez-vous politique de ce dimanche sur RTL, le grand jury RTL Le Figaro LCI reçoit Gérard Larcher, président du Sénat et proche de François Fillon. Émission animée par Olivier Mazerolle à 12h30.
Attentat ou pas attentat en Allemagne? Une personne a été tué et 2 autres blessés lorsqu'une voiture a foncé sur elle en pleine rue.
Ça s'est passé dans la ville d'Heidelberg. Pour l'instant, rien ne fait penser à un acte terroriste, dit la police. Blandine Milsan, vous êtes la correspondante de RTL en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Le conducteur de la voiture a foncé sur des piétons vers 16h hier dans le centre de Heidelberg. Selon un journal local, il s'était arrêté à un feu rouge et en redémarrant au vert, il serait allé percuter ses passants devant une boulangerie. Puis il est descendu de son véhicule. Il a cherché à fuir à pied. Il était armé d'un couteau. Alerté, une patrouille de police l'a stoppé en lui tirant dessus. Et grièvement blessé, l'homme a été transporté à l'hôpital où il a dû subir une opération. Il s'agit d'un Allemand de 35 ans. On ne sait pas s'il a commis son acte intentionnellement ou non. La police précise qu'elle n'a pas d'éléments pour l'instant permettant d'évoquer un acte terroriste. Et selon le quotidien Bild-Zeitung, l'homme souffrait de troubles psychiques. Mais à Heidelberg, où l'on fête le carnaval en ce moment, l'émotion était forte hier, 2 mois après l'attaque au camion Bélier sur un marché de Noël à Berlin qui avait fait 12 morts.
Les attentats qui ont fait baisser la fréquentation touristique en France, c'est l'objet d'ailleurs d'un échange aigre-doux en ce moment même entre François Hollande et Donald Trump.
Selon le président américain, Paris n'est plus Paris à cause des problèmes de sécurité. Réponse du chef de l'État français, ce n'est jamais bon de marquer la moindre défiance à l'égard d'un pays ami. C'est vrai que dans le contexte économique morose qui est le nôtre, Arnaud Touche, ce serait mieux que Paris donne envie.
Oui, ce n'est pas la première fois que Paris est dénigré. Le président américain Donald Trump parle souvent de l'Europe en agitant les peurs. Ces déclarations peuvent avoir un réel impact sur les touristes américains à terme, comme l'explique Laurence Monclar de l'agence de tourisme parisienne Meeting the French.
Je crois que ça freine la reprise quand même, parce que les attentats sont un petit peu loin maintenant et l'opinion américaine commence à voir la France plus favorablement. Mais c'est vrai que Donald Trump ressort des peurs irrationnelles, mais en attendant, ça freine la reprise. reprise cette année.
Pourtant, au premier semestre de cette année, les réservations de touristes américains dans la capitale sont bien en hausse de 30% par rapport à l'année dernière, selon la maire de Paris. Elle a d'ailleurs ironiquement répondu à Donald Trump en postant une photo d'elle entourée de Mickey et Minnie à l'occasion des 25 ans du parc Disneyland. La mairie de Paris, qui n'avait pas hésité non plus à porter plainte contre la chaîne américaine d'information Fox News en 2015, qui affirmait l'existence de no-go zones, des endroits où les non-musulmans et les policiers ne pourraient pénétrer. La chaîne avait même dû s'excuser.
Et des relations peut-être difficiles entre la France et les États-Unis, nous reparlerons à 9h10 avec l'invité de la rédaction ce matin, François Durper, qui est historien, spécialiste des États-Unis.
Ils sont soupçonnés d'avoir projeté un attentat. Deux hommes de 19 et 27 ans ont été mis en examen et écroués hier soir. Ils ont été arrêtés en début de semaine à Marseille et Clermont-Ferrand. Des armes et des documents de propagande djihadiste ont été retrouvés lors des perquisitions.
Des policiers en arrêt de travail pour burn-out et dépression. C'est un mal-être qui peut-être cache beaucoup de colère.
Ils sont quelques dizaines à Sète et à Agde dans l'Hérault. Ils appartiennent à la brigade anticriminalité ou à police secours. Et depuis plusieurs jours, ils ne travaillent pas pour protester contre leur rythme de travail. Ils ont notamment trop peu de week-ends à pouvoir passer en famille. Écoutez Bruno Bartocchetti du syndicat SGPFO Police.
Il y a un plus du burn-out collectif, on va dire. Il y a une colère, bien sûr, qui s'exprime. Il faut savoir qu'il y a environ 15 jours, 150 policiers du département de l'Hérault ont saisi par rapport le médecin de prévention et les psychologues. Cette colère qui s'exprime d'abord à Sète, aujourd'hui à Agde. Malheureusement, on peut penser que ça va aller encore plus loin. Pourquoi ? Tout simplement, nous avons des solutions pour aménager le temps de travail sans pour autant ne pas respecter le service public. Et on a un rejet total de notre administration, en l'occurrence le préfet qui est le porte-voix de la direction centrale. On a des solutions et on a un rejet. Aujourd'hui, on a des policiers qui ont un week-end sur 6, 9 week-ends par an en famille. Et on a des possibilités pour que ces policiers obtiennent un week-end sur 2 de repos, ce qui serait un assouplissement quand, in fine, ils se rendent compte qu'il y a un rejet total de l'administration, tout s'effondre. Et bien sûr, entre le burn-out et la colère, eh bien, la motivation a été collective pour aller rencontrer les médecins. Et voilà où on en est.
Propos recueillis par Aline Thibal. On sait toujours très peu de choses sur la famille entière qui a disparu à Orvault, près de Nantes. Le couple et les deux enfants de 18 et 20 ans n'avaient pas de projet de départ, selon les premières auditions. Ils n'ont pas donné signe de vie depuis 10 jours. Des traces de sang ont été découvertes dans la maison familiale.
Au sommaire de la page sport, d'abord le rugby. Encore un échec. La France ne tient toujours pas sa victoire contre une nation majeure.
Les Bleus se sont inclinés en Irlande 19 à 9 dans la troisième journée du tournoi des Six Nations. Il cherche donc toujours ce match référence qui permettra aux 15 de France de se reconstruire. Et ça commence à grincer en coulisses, Jean-Michel Rascol.
Une petite souris raconte avoir été témoin d'éclats de voix dans les vestiaires du 15 de France. Guinoves avait bien des raisons de lâcher quelques vérités à ses joueurs. Mais ce n'était pas lui. Un homme en costume et petites lunettes, président de son état, n'avait pu dissimuler sa frustration. Bernard Laporte, puisqu'il s'agit bien de lui, en aurait bien rajouté une couche face au micro s'il n'en avait été dissuadé par son bras droit, Serge Simon, ancien pilier devenu pour l'occasion diplomate. Les joueurs du 15 de France ont définitivement perdu le tournoi 2017. Le bilan de Guinoves est catastrophique, 5 succès en 13 matchs, mais l'espoir fait vivre et avancer le demi d'ouverture, Camille Lopez.
C'est une défaite, on savait que c'était important de venir chercher quelque chose ici pour essayer de bien postuler dans ce tournoi. On va continuer à travailler pour essayer d'être plus performant les prochaines fois.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la France du rugby qui s'impatiente ?
Forcément, ça peut se comprendre. Ils attendent forcément des résultats et que ça gagne. Ils continuent à être derrière nous pour justement aller chercher des victoires.
La prochaine devrait s'écrire en Italie, même pour voyager à Rome. Le conditionnel s'impose désormais au rugby français.
Hier également, l'Écosse a battu le Pays de Galles 29 à 13. À suivre cet après-midi, Angleterre-Italie.
En football, Monaco conforte sa place de leader de Ligue 1, et ce bien sûr après sa victoire d'hier.
Le club de la Principauté s'est imposé 2-1 à Guingamp dans la 27e journée, à la plus grande satisfaction de Valère Germain, l'attaquant de Monaco.
Paris et Lyon s'étaient cassés les dents ici, donc voilà, c'est d'autant plus important d'avoir gagné ici, d'accentuer notre avance sur Paris qui aura un match difficile à Marseille et de reprendre l'avance sur Nice. On a joué intelligemment, on savait que Guingamp allait être plus frais, qu'ils allaient jouer avec beaucoup de ballons longs et voilà, on a fait un match sérieux et ça a suffi pour prendre les 3 points. On est devant, après on n'a pas non plus énormément d'avance, donc tous les matchs vont être très importants. C'est bien de faire la course en tête, maintenant il reste encore 11 matchs, encore beaucoup de points à prendre. On a la chance de recevoir 2 fois à domicile lors des 2 prochains matchs, donc il faudra faire un sans faute pour encore accentuer l'avance.
Valère Germain avec Vincent Nori pour RTL. Hier également, Lille a encore perdu 3-2 face à Bordeaux. Angers a sèchement battu Bastia 3-0. Victoire de Rennes sur Lorient 1-0. Match nul 0-0 entre Nancy et Toulouse. À suivre aujourd'hui, Saint-Étienne-Caen à 15h, Lyon-Metz à 17h et le Classico Marseille-PSG à 21h. Un match très attendu par les supporters et par Blaise Matuidi, ailier gauche du PSG.
On aime ça, on aime ces ambiances chaudes, on aime ce genre de match. C'est difficile parce que c'est une équipe de Marseille qui est performante à domicile et pour eux aussi c'est un grand match. Ils font pas la Coupe d'Europe cette année, donc c'est l'un des grands matchs de la saison pour eux. Donc oui, on s'attend à un match difficile, mais on est habitué à ce genre de rencontre et je pense qu'on répondra présent. Bien sûr, on aime avoir le ballon, on aime faire le jeu, mais je pense qu'on est meilleur lorsqu'il y a aussi un adversaire en face de nous qui joue aussi. Et je pense que Marseille, devant son public, va jouer. Ça fera un beau match, je pense, pour les spectateurs. Plus savoir ce que nous, on va proposer, ce que nous, on va mettre en place pour les mettre en difficulté. Pour faire un grand match et surtout gagner. Parce que quand on a le maillot du Paris Saint-Germain, on joue tous les matchs pour les gagner.
Blaise Matuidi avec Philippe Sanfourche. En Ligue 2, le derby du Nord a profité à Lens dans la 27e journée. Victoire 2-0 sur Valenciennes.
Et les amateurs de course hippique connaissent bien Bald Eagle. C'est le cheval très très en forme du moment. Et cet après-midi, il va tenter un triplé.
Il va essayer de remporter le Grand Prix de Paris, en plus du Prix d'Amérique et du Prix de France. Le trotteur n'a que 6 ans. Frédéric Veil est allé lui rendre visite dans son écurie d'un village normand.
Oui, c'est dans l'Orne, loin de l'agitation des champs de course, que vit et s'entraîne Bald Eagle. Le célèbre trotteur n'est pas seul dans l'écurie de Sébastien Guarato. Ici, il y a une cinquantaine de chevaux, mais évidemment, le crack est un peu plus chouchouté que les autres.
On fait attention à tous les chevaux, mais celui-là, je passe une bonne partie de mon temps pour lui.
Hugues Monculet est en effet le lada titré de Bald Eagle.
Il est gentil.
Et il ne faut pas plus de 30 secondes pour s'apercevoir qu'il y a une vraie complicité entre deux.
Ouais, mon crack, il va essayer de réaliser l'exploit. Ce serait beau quand même. Ce serait historique, ça fait 40 ans que ça n'a pas été réalisé. Et ouais, c'est beaucoup de fierté d'être à côté de ce cheval-là quand même. Et en plus, il est vraiment attachant, il est adorable. Il aime bien faire des câlins, il est joueur. C'est vraiment agréable de s'occuper d'un cheval comme ça. Après, il aime bien la piste. Qui s'entraîne. Puis arrivé aux courses, je crois qu'il sait ce qu'il a à faire. Il a un mental de gagnant, je crois.
Ce mental qui fait de lui un champion hors norme, qui en cas de victoire ce dimanche égalera l'exploit réalisé en 1976 par Bellino II, le plus grand trotteur de tous les temps.
Merci beaucoup. Reportage de Frédéric Veil dans le Haras, donc de Bald Eagle en Normandie. À tout à l'heure, 8h pour votre prochain journal.